Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une géante de la vie de l'Église, trop méconnue. Une femme du XIVe et du XVe siècle, une religieuse, une grande mystique. Une femme qui, au dire de mon invité de ce matin, aurait pu peut-être éviter la brisure de la réforme si ses exhortations avaient été écoutées. Rien que cela. Cette femme, c'est Catherine de Sienne, déclarée sainte et docteur de l'Église par les catholiques, mais aussi patronne de l'Europe, portrait et enseignement spirituel. Cette émission Vivante Église ce matin, donc à la découverte de Catherine de Sienne, avec pour venir nous en parler François Daguet. Vous êtes prêtre religieux dominicain et professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Je vais y arriver, bonjour.
Bonjour.
Et également, donc, vous êtes l'auteur d'une préface pour une publication qui vient de sortir, Les œuvres complètes de Catherine de Sienne, parue aux éditions des Belles Lettres. Catherine de Sienne, je le disais en introduction, une géante trop méconnue, vous qui plaidez sa cause probablement régulièrement, ça sera peut-être ma première question d'introduction, je propose qu'on en ait que deux ou trois avant de se plonger dans sa vie. Est-elle trop méconnue et si oui, pourquoi ?
Oui, elle est assez peu connue, en particulier en France, il faut bien le dire. Elle est plus connue en Italie, hein. Elle est patronne de l'Italie, les Italiens la vénèrent et la révèrent. Évidemment, en France, elle est un peu plus lointaine. Et puis, elle est méconnue aussi parce que quand même, le XIVe siècle est un siècle lointain. Et non seulement c'est un siècle lointain, mais c'est un siècle sombre. Hein. C'est le siècle des grandes pestes, de la peste noire en particulier. Et voilà, ce n'est pas forcément la période à laquelle on remonte avec le plus de sympathie. Entre le XIIIe siècle, si étonnant et si lumineux, si vous voulez, sommet du Moyen-Âge, indiscutablement, et le XVe siècle aussi, qui est déjà l'aurore de la Renaissance et qui annonce la venue de l'époque moderne, le XIVe siècle est un peu le siècle méconnu.
Autre chose de frappant à propos de Catherine de Sienne, vous dites dans ce propos introductif qu'il est probable en fait qu'elle ait autant influencé son temps qu'elle n'a été influencée par son propre temps. Je faisais écho aussi à ce propos que vous avez à la fin de cette préface. Si on avait écouté ses exhortations, on aurait pu peut-être éviter la brisure de la réforme. Rares sont les personnages comme ça dans l'histoire, c'est peut-être la marque des grands saints qui vont jusqu'à faire l'histoire, voire l'histoire de l'Europe.
Ben, je crois que vous n'avez pas tort. L'histoire de l'Europe, en tout cas, au moins pour une part, l'histoire de l'Église et de l'Église de cette époque. On aura l'occasion de leur dire, certainement. Catherine, c'est une de ses grandes caractéristiques, a un sens suraigu de l'Église, de la réalité mystérique de l'Église, de ce qu'elle représente. Et par voie de conséquence, tout ce qui lui porte atteinte, tout ce qui l'abîme, tout ce qui la souille, tout ce qui, au fond, en elle est infidèle à sa vocation, est extrêmement présent dans ses écrits. Et elle n'a de cesse, justement, c'est le terme qu'elle emploie, hein, que l'Église se réforme, justement. Et bien là encore, je me suis laissé à la pensée que si on l'avait davantage écoutée, bien peut-être que ce grand mouvement de la réforme qui a quand même brisé la chrétienté latine si rapidement au début du XVIe siècle, eh bien ne serait pas produit de la même façon.
Alors plongeons-nous dans la vie de cette femme. C'est ce qu'on va faire donc dans cette deuxième partie. Je le dis par pédagogie à l'égard des auditeurs. Certains aiment bien savoir où les mène, donc on va dire qu'on pense à eux. On fera donc une courte biographie. Après, on verra les traits marquants de cette femme, en tout cas de sa spiritualité. Et puis on finira cette émission avec quelques conseils de vie spirituelle. Cette femme est, si je ne me trompe pas, la 23e de 25 enfants, c'est ça ?
Oui, on autre pense époque, probablement autre monde. 23e, on n'est pas absolument certain, oui. Mais des mêmes parents, n'est-ce pas ? C'est ça qui est absolument stupéfiant. Hein.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire peut-être sur le biotope de cette sainte ? Souvent, il est important de voir d'où les saints viennent.
Ben, écoutez, c'est une petite fille de Sienne qui naît dans un milieu qui n'est pas à propre parler un milieu pauvre, mais qui est certainement pas un milieu aisé. Son père est teinturier. Donc c'est un milieu d'artisans très méritoires qui travaillent énormément. Il faut faire vivre une famille très nombreuse, vous l'avez compris. Et rien n'est trop facile dans cette famille. Et en même temps, voilà, ce n'est pas la misère. On a juste ce qu'il faut pour vivre, mais surtout on est animé par une foi extrêmement forte.
Est-ce qu'on commence tout de suite par parler de sa vie mystique? Parce que j'ai cru comprendre donc que très tôt, elle avait une relation avec le Christ très singulière, et entre autres une apparition qui est souvent rapportée donc à l'âge de 6 ans. Est-ce que vous pouvez en parler?
Elle a rapporté cela à son biographe qui lui a demandé de la raconter. C'est ce qui a un peu tout déclenché dans sa vie. Elle raconte que à proximité de l'église des Dominicains de Sienne, où elle se rendait très souvent, le Christ lui est apparu, revêtu des ornements pontificaux, c'est-à-dire habillé en pape, vous voyez, entouré de Saint-Pierre, de Saint-Paul et de Saint-Jean, rien que cela. Et au fond, c'est une figure justement de l'Église hein, qui lui apparaît à travers cette personne du Christ, et c'est ce qui a tout déclenché. À partir de ce moment-là, elle a... On n'est pas tout à fait sûr hein, de sa date de naissance, 1345, 1347, elle doit avoir 6-7 ans à peu près. À partir de ce moment-là, elle voue sa vie au Christ et à l'Église indissociablement. Ça va être un des grands enjeux de sa vie spirituelle. Justement.
Si on continue sa vie familiale, elle est, comme souvent j'ai l'impression, contrariée dans sa vocation religieuse, et elle tire déjà quelques enseignements spirituels clés de cette période difficile. Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce qu'elle a vécu comme, est-ce qu'on peut dire une forme de persécution familiale presque ou...
Oui, alors ça n'a pas été immédiat bien sûr parce qu'elle était encore un enfant, mais assez vite dès qu'elle est devenue adolescente, ses parents ont voulu évidemment la marier. C'est bien classique à cette époque, et là sa résistance est immédiate. Elle ne veut avoir pour époux que le Christ. Et donc, elle va opposer toutes les résistances possibles, et ce sera parfois presque violent dans sa famille, mais elle reste à la maison. Et en fait, ses parents finalement vont se soumettre, parce qu'il faut bien le dire, hein, Catherine de Sienne a une volonté de faire, et elle s'impose à tout le monde, et même très jeune. Et elle va, au fond... Ce qui est intéressant avec Catherine, c'est qu'elle ne va pas entrer dans un monastère. Hein. Elle ne va pas entrer formellement dans une communauté religieuse constituée. Il y avait à proximité de Sienne un monastère de dominicaine bien connu avec la figure et la présence de Sainte Agnès de Montepulciano. Non, elle n'est pas entrée là. Elle est restée justement dans un premier temps donc chez ses parents. Et alors là, elle a mené pendant environ 5 ans une vie véritablement de recluse. Elle avait une espèce de réduit où elle habitait.
Volontairement ou...
Ah oui, volontairement.
Ah oui.
Et elle a vraiment vécu...
J'ai cru comprendre que ses parents qui l'avaient un peu réduit à la condition de
alors, servante. Les deux ont convergé, mais en tout cas, elle s'est enfermée en quelque sorte là. Et elle vivait une vie, alors déjà d'une ascèse très forte, alors qu'elle était encore très jeune. Hein. Mais elle a voulu surtout vivre dans la solitude et le silence pour rencontrer le Christ. Et là, c'est vraiment le lieu un petit peu fondateur, si vous voulez, des expériences d'union très très fortes qu'elle va connaître avec le Christ. Ce qu'il faut dire, c'est donc qu'elle est entrée, elle a fini par entrer... alors qu'elle a environ une quinzaine d'années, si vous voulez, dans une communauté, en fait, on dirait aujourd'hui du tiers ordre dominicain, qui réunissait d'ailleurs surtout des veuves, donc évidemment qui pensaient qu'elle n'était pas la personne adéquate. Mais finalement, donc voilà, ça va être une... Si vous voulez, on dirait aujourd'hui, Catherine de Sienne, c'est une consacrée dans le monde. Voilà. Très liée à la famille dominicaine, on en reparlera sans doute. Vraiment très unie au couvent des frères, au monastère démonial, mais en même temps ouverte à toutes les réalités d'église qu'elle peut rencontrer.
Je vous propose maintenant qu'on parle du contexte, parce que vous connaissez donc probablement mieux que bien d'entre nous ce contexte donc de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle, une période de grands changements, de grands troubles. Vous l'avez dit, c'est la période des grandes pestes. Comment vous présenteriez cette période de l'histoire et en partie de l'histoire de l'Église?
Ah, c'est une période, c'est un siècle d'ébullition générale, ce XIVe siècle. Hein. Le grand mouvement déjà qui avait été inauguré à la fin du XIIe siècle et qui a couvert tout le XIIIe de développement des cités hein, se poursuit. Et Sienne est une des cités très très vivantes. C'est pas la plus grande, c'est Florence bien entendu, mais d'Italie du Nord. Et donc, il y a l'apparition, si vous voulez, de toute une classe d'artisans, de commerçants, au fond, on dirait de bourgeoisie, hein, c'est-à-dire des habitants des bourgs, et des commerçants qui suscitent une activité extraordinaire. Et donc qui font bouger un petit peu les structures anciennes déjà du Moyen-Âge. Hein. Donc socialement parlant, c'est une période d'assez profonde transformation. Et ça continuera évidemment tout au long du XVe, à Sienne en particulier. Et puis dans l'Église, c'est une période là encore d'effervescence parce que les conflits à l'intérieur de l'Italie, en particulier l'Église d'Italie, mais pas seulement, c'est pareil en France, sont particulièrement vifs. Et en particulier, vous le savez, ces conflits qui vont opposer... les partisans de l'empereur et les partisans du pape, avec ces querelles incessantes des cités qui vont soit s'allier, soit se révolter contre le pape. Et alors justement, c'est au milieu de ces, au fond, de ces guerres civiles, parce que les partis déchirent les cités elles-mêmes, que Catherine va, dans un premier temps, en tout cas, déployer son activité apostolique pour essayer de ramener la paix au cœur de ces cités en guerre, il faut bien le dire. Hein, la guerre est très présente, guerre civile, guerre étrangère. Et alors, elle va d'abord commencer par Sienne, et puis après, sur les instances d'ailleurs du Christ lui-même, elle ira plus loin, elle ira dans les autres cités, elle va essayer de réconcilier Florence avec le pape, Pise, les cités du Nord, voilà, pour pacifier ce monde qui est en proie à la violence. Et comme si la violence déjà, on l'a évoqué, des pestes ne suffisait pas.
Avant qu'on précise donc, on va dire son activité ou sa grande mission au cœur de l'Église, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur le contexte religieux, puisque vous avez commencé, enfin vous l'avez évoqué mais rapidement, mais c'est une période aussi où l'autorité du pape est contestée par les États, en tout cas une forme de suprématie ou d'autorité morale. Est-ce que vous pouvez préciser ça?
C'est-à-dire que l'affirmation progressive, si vous voulez, de l'autorité papale, pontificale, si vous voulez, dans la ligne de ce que l'on appelle la réforme grégorienne, hein, de Saint Grégoire VII, et période, si vous voulez, d'affirmation pontificale qui va couvrir la fin du XIIe, tout le XIIIe siècle, et alors qui va culminer justement au XIVe siècle, va susciter de très profondes réactions. Des réactions entre d'abord de la part, si vous voulez, des puissances temporelles, donc des cités, des rois, des empereurs, des princes, quelle que soit leur dénomination, qui vont chercher à résister un peu à l'impérium du pape, et puis également contestation très forte à l'intérieur de l'Église. Et on sait que justement à la fin de la vie de Catherine, donc à la fin du XIVe siècle, il va y avoir ce qu'on appellera la crise conciliariste, c'est-à-dire qu'une partie des évêques de la chrétienté vont se révolter contre le pape. Et c'est une crise qui va marquer très profondément la fin du XIVe et tout le début du XVe siècle. Donc là encore, le contexte ecclésial, si vous voulez, est particulièrement sensible. Les affirmations de l'autorité pontificale sont mal supportées. Il faut dire qu'elles sont souvent maladroites.
Alors dans la deuxième partie de l'émission, quand on parlera de Catherine comme la femme qu'elle était, ou l'épouse à entendre évidemment comme épouse du Christ et même épouse de l'Église, vous nous expliquerez, ça nous permettra de revenir aussi sur toute cette période et d'autres aspects de sa vie. Je proposais, avant qu'on fasse une première pause, que vous me disiez quelques mots du caractère qu'on lui connaît. Vous disiez que c'était quelqu'un qui avait une volonté de faire. Moi, j'ai lu aussi que ce qui l'a caractérisé, c'était aussi une grande douceur. Parlez-nous de ce qu'on peut dire de son tempérament ou de son caractère.
Écoutez, autant qu'elles nous apparaissent, cela dit, on a des éléments biographiques assez précis la concernant. Donc, je crois qu'on était un peu à l'abri de ce qu'on rencontre quelquefois, des légendes, si vous voulez, qui ont enjolivé la personnalité.
À la lumière de nombreuses lettres, c'est ça, surtout
D'abord, sa biographie, puisque son biographe, Raymond Capou, lui a fait raconter sa vie, et ceci à plusieurs reprises, pour avoir des éléments extrêmement précis, plus encore que par les lettres qui, parfois, d'ailleurs, ont été expurgées. Et puis par le témoignage de ses proches, puisqu'il y a eu un procès une vingtaine d'années après sa mort, au cours duquel ont témoigné tous ceux qui avaient vécu avec elle. Pour vous résumer en deux mots, si vous voulez, la personnalité de Catherine, je dirais que c'est une femme forte. Elle est pleinement femme, et étant pleinement femme, elle a cette force féminine qui en impose, et en particulier d'ailleurs qui en impose aux hommes. C'est une femme extrêmement volontaire, très déterminée, c'est une femme suprêmement intelligente, il faut bien le dire, dotée d'un sens psychologique extraordinaire. Elle le manifeste à de nombreuses reprises, et ceci dans une extraordinaire simplicité. C'est la femme la plus simple qui soit au quotidien.
Ça veut dire quoi, ça, cette simplicité? Vous auriez des exemples pour...
Elle s'intéressait aux choses les plus triviales, si vous voulez, de la vie quotidienne, quand elle était avec ses compagnons, parce qu'elle se déplaçait jamais, rarement seule, si vous voulez. Elle était entourée de ce qu'on appelait sa familia ou sa bella brigata, qui l'entourait. Elle se préoccupait des considérations pratiques. C'est pas du tout un personnage planant, si vous voulez, dans une espèce de ciel éthéré au-dessus des réalités profanes. Pas du tout, justement. Comme elle était plongée dans les réalités profanes, elle en était tout à fait familière. Elle savait fort, fort bien les prendre en considération. Mais au cœur de cela, elle apportait un regard de sagesse extrêmement profond. Un regard de sagesse chrétienne, si vous voulez. Vous savez, il y a une très belle expression qui revient très souvent dans ses lettres. Elle s'adresse à ses interlocuteurs en leur disant « Ouvrez l'œil de votre intelligence avec la pupille de la très sainte foi. » Et voilà.
De la très sainte foi.
La foi. C'est-à-dire jeter un regard de connaissance sur les réalités, et en même temps un regard éclairé par ce que la foi peut vous en dire. Hein. Ben, c'est ça, Catherine de Sienne. C'est tout le réalisme d'une intelligence naturelle, hein, et Dieu sait qu'elle était grande chez elle, et en même temps la profondeur du regard de foi qui vient élever en quelque sorte cette intelligence pour conduire justement à ce regard de sagesse chrétienne sur les réalités humaines.
On va faire une première pause et puis on vous retrouve pour continuer à parler de Catherine de Sienne. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant et qui voudraient aller plus loin, les œuvres complètes donc de Catherine de Sienne qui ont été éditées aux éditions Belles Lettres récemment, qu'est-ce qu'on peut donner comme ouvrage? Un ouvrage peut-être plus grand public, plus simple ou plus court que les œuvres complètes, François Daguet?
Bon, parmi les publications récentes, l'ouvrage d'André Vaucher, le grand historien médiéviste sur Catherine de Sienne, et celui qui fait un point historique sur sa situation.
On fait une pause et on vous retrouve tout de suite.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin sur le thème donc à la découverte de Catherine de Sienne, pour rappel pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, avec comme invité François Daguet, prêtre religieux dominicain, professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, et donc je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, qui a fait la préface de la publication des œuvres complètes de Catherine de Sienne, parue récemment aux éditions Belles Lettres. On va continuer donc à creuser l'histoire de cette femme. Allez, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie, en quelques mots, comment peut-on résumer cette sainte, ce docteur de l'Église? C'est la première femme docteur de l'Église aussi dans l'histoire de l'Église, non?
C'est Sainte Thérèse d'Avila qui a été proclamée la première docteur de l'Église par le pape Pie XI, donc au XXe siècle. Catherine de Sienne a été proclamée docteur par le Paul VI en 1970. Voilà. Donc, et depuis, il y a eu également Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Donc docteur de l'Église, mystique, stigmatisé, patronne de l'Europe, et vous disiez patronne d'Italie.
Y aurait-il d'autres? De l'Europe, proclamée par Jean-Paul II, oui.
Alors si on revient sur certains grands aspects de sa vie, vous insistez dans cette préface entre autres sur le fait que tout simplement ça soit une femme. Vous nous avez parlé un petit peu de son tempérament et de son caractère, un mélange donc d'une très grande force et d'une très grande douceur, comme souvent probablement chez les saints, des choses apparemment contradictoires qui arrivent à tenir dans la même personne. Qu'est-ce que vous diriez peut-être du rôle qu'a eu cette femme à une époque où on imagine que les femmes avaient difficilement des rôles politique, non?
Vous avez tout à fait raison. Ce qui est très étonnant, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est sans doute la première figure féminine qui émerge pareillement, si vous voulez, au Moyen-Âge, et qui va acquérir une telle stature. Hein. Car Catherine va être connue de son temps, au fond, non seulement en Italie, mais en France, puisque le pape est en Avignon, hein, vous le savez, à ce moment-là. Et d'ailleurs, elle va donc œuvrer au retour du pape à Rome.
Alors, tout le monde ne le sait pas forcément. Vous pouvez faire une petite parenthèse, justement, sur la présence du pape en Avignon, qui dit aussi
le pape est en Avignon déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis, Rome est une ville incertaine, et l'évêque de Rome n'est pas en sûreté dans sa ville. Et donc, il s'est réfugié dans la ville d'Avignon, où finalement il s'est enraciné. Et 50 ans après, on se demande s'il va finir par rejoindre, si vous voulez. Le pape est toujours l'évêque de Rome. Or, l'évêque de Rome réside en Avignon, si vous voulez. Et Catherine de Sienne va être, alors c'est pas la seule, hein, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, mais elle va être Sainte Brigitte de Suède, sa contemporaine, hein, va œuvrer dans le même sens. Elle va être de celles qui vont sommer, en quelque sorte, le pape de rentrer à Rome et d'avoir la force et le courage d'y aller, en dépit d'ailleurs d'une insécurité tout à fait réelle que le pape Grégoire XI va affronter. Mais finalement, bon, le pape va finir par se réinstaller à Rome et y demeurer.
Alors précisez peut-être sa mission et son apostolat, parce qu'on a parlé donc en début d'émission de cette vision qu'elle a eue à l'âge de 6 ans, où elle a vu le Christ en souverain pontife. au cœur de la vie de l'Église à cette époque. On peut dire que Catherine de Sienne avait mission de réformer la papauté, l'Église, ou de contribuer à la réformer.
Sans doute ne faut-il pas aller aussi, être aussi catégorique. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a reçu, après un premier épisode de sa vie mystique, hein, ses épousailles avec le Christ, elle a reçu de lui la mission de sortir justement de sa vie de recluse pour aller justement prêcher la paix au cœur des cités. Hein. Et donc ce sera d'abord la cité de Sienne et puis finalement d'autres cités du nord de l'Italie. Hein. Et c'est après seulement, après d'ailleurs encore une autre expérience, mystique, et en particulier sa stigmatisation invisible aux yeux des hommes, mais tout à fait réelle, elle n'a cessé de le dire, et qui la faisait horriblement souffrir, qu'elle s'est sentie poussée, n'est-ce pas, et investie de cette mission d'aller rejoindre le pape en Avignon. Donc il faut imaginer ce que c'est que cette petite femme d'une trentaine d'années qui débarque à la curie avignonnaise au milieu des cardinaux. Et qui très vite rencontre le pape et lui dit qu'il faut qu'il rentre dans sa ville. Hein. Il faut comprendre, si vous voulez, cette préoccupation vis-à-vis du pape dans le cadre plus large de sa sollicitude qu'on a déjà évoquée pour l'Église elle-même. Hein. Son amour de l'Église, son désir de voir l'Église briller au cœur du monde comme elle a vocation à le faire, passe à la fois par cette réforme et cette purification, notamment des mœurs, à l'intérieur de l'Église, hein, ce qu'elle appelle la réforme de l'Église, et également passe par le retour du pape en Avignon. Ça passait aussi pour elle, il faut le mentionner, par une nouvelle croisade hein, qu'elle n'a cessé d'appeler de ses vœux, c'est-à-dire pour elle un grand pèlerinage, si vous voulez, de purification en Terre Sainte, qui finalement n'aura pas lieu. Hein. Elle n'aura pas gain de cause dans tous ses combats. Hein.
C'est-à-dire, elle demandait un grand pèlerinage ou
elle demandait
est-ce que
une croisade.
C'est la croisade telle qu'on l'imagine
C'est ainsi qu'elle le concevait et telle qu'on la concevait encore à l'époque. C'est évidemment pas du tout une guerre sainte comme on a voulu le présenter, mais pour elle, une grande opération de, j'allais dire, un grand pèlerinage purificateur, expiatoire, pénitentiel, si vous voulez, de la part des chrétiens sur les terres sur lesquelles le Christ a vécu.
Est-ce que vous pouvez dire quelques mots du succès qu'elle a eu? Parce que donc vous avez parlé de cette rencontre avec le pape Grégoire XI, mais ce pape décède. Après, c'est Urbain VI qui accède donc au trône de Pierre. Les choses se complique et en même temps, elle passe une partie de sa vie à Rome, non?
À partir du moment où le pape se réinstalle à Rome, et en fait c'est à la fin de sa vie, hein, à partir de 1376, et elle meurt en 1380, hein, donc le pape s'installe à Rome et Urbain VI, donc, vous venez de le dire, succède à Grégoire XI, en fait veut l'avoir auprès d'elle. Auprès de lui. Et donc, elle va s'installer à Rome.
Donc, elle est comme un conseiller spécial au cœur du Vatican.
C'est la présence d'une sainte. Elle n'est pas au cœur du Vatican. Elle est dans Rome, dans un lieu qu'on peut visiter aujourd'hui, juste à côté d'ailleurs du séminaire français, Via Santa Chiara, à côté de l'église de Sainte Marie sopra Minerva, de la Minerve, où justement elle est enterrée, enfin où vous avez la chasse de ses reliques dans le maître-autel, hein, au cœur de Rome, et elle s'installe là avec un certain nombre de compagnons, de religieux qui l'accompagnent, comme toujours, et elle répond aux invitations du pape qui sont très fréquentes, et en fait elle va aussi souvent que possible à la messe à Saint-Pierre. Vous voyez, elle n'est pas à Saint-Pierre, mais elle va à la messe à Saint-Pierre. Ceux qui fréquentent Rome ont peut-être remarqué au bas de la Via della Consolazione à Rome.
Donc c'est cette grande avenue qui monte.
Cette grande avenue qui monte
à l'intérieur du Vatican, qui monte vers Saint-Pierre de Rome.
Voilà, l'actuel Saint-Pierre, hein, c'est pas celui qu'elle a connu. Il a été reconstruit depuis. Il y a Paul VI a fait édifier une très très belle sculpture d'ailleurs où on voit Catherine de Sienne et ses compagnons montant vers Saint-Pierre et allant soutenir en quelque sorte le pape. Et le pape s'entretenait avec elle. Il la faisait intervenir au fond devant les cardinaux.
Donc elle a réussi à convaincre Grégoire XI de retourner à Rome, et après, quelle influence a-t-elle eu sur le suivant?
Sur Urbain VI, alors Urbain VI n'avait pas du tout le même caractère que Grégoire XI. Grégoire XI était un pape assez timoré, et Catherine avait surtout le rôle de stimulant, si vous voulez, pour lui. Urbain VI était un pape qui n'était pas timoré, mais qui était très souvent maladroit, brutal dans ses réactions, et je pense qu'elle a largement contribué, enfin moi dans certains cas, autant qu'elle a pu à arrondir tenir les angles dans certains cas, mais également à fortifier la curie. Hein. Et c'est lui qui a eu cette parole qui est restée célèbre, s'adressant aux cardinaux, il disait « Cette petite femme nous fait honte, nous tremblons et nous la voyons, elle, ferme et assurée dans les difficultés. » Donc, vous voyez, une espèce de principe fortificateur, fortifiant à l'intérieur même de cette église romaine qui retrouve son pasteur et qui est encore finalement très fragile et dans un contexte de sécurité menacé, indiscutablement.
Si vous tenez à insister aussi sur l'épouse qu'elle a été. Vous avez une phrase, même à un moment, je me souviens plus exactement. Si elle est par excellence la mystique de l'Église épouse. Alors vous allez nous expliquer ça. Peut-être avant, faut-il revenir sur des choses que vous avez dit rapidement. Et pourtant, Dieu sait si ce sont des grands mystères et puis difficiles à comprendre, même quand on est chrétien et pratiquant, sur l'ampleur de sa vie mystique. Vous avez parlé tout à l'heure de stigmates, vous avez parlé de... j'ai même lu qu'il y avait une forme d'échange des cœurs à un moment, enfin des choses qui paraissent tout à fait invraisemblables. Expliquez-nous un petit peu plus, peut-être que vous ne l'avez fait, ce que l'on sait de la vie mystique absolument exceptionnelle qu'a eue cette femme.
C'est d'abord une vie intérieure, hein, et une vie d'union au Christ, et c'est ça la vie mystique. Hein. Les phénomènes extérieurs, qui sont alors tout à fait nombreux, indiscutablement, et extraordinaires chez Catherine, alors vraiment et très impressionnants, vis-à-vis desquels, qu'il ne faut ni dédaigner, ni survaloriser, si vous voulez. Il ne faut pas être, comme certains, attiré à l'excès par ces phénomènes extraordinaires. Ils ont été nombreux dans la vie de Catherine, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est sa vie intérieure d'union au Christ. Et c'est ça, sa vie mystique. Et la note particulière, si vous voulez, indiscutablement, chez Catherine de Sienne, c'est, nous l'avons dit, son amour de l'épouse, au point, en quelque sorte, si vous voulez, qu'elle va... son amour de l'Église, au point qu'elle va en quelque sorte s'identifier à l'Église. Et vous savez que c'est saint Paul qui, en particulier dans l'Épître aux Éphésiens, nous parle de l'Église comme de l'épouse du Christ. Hein. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Hein. Il voulait se la présenter à lui-même, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Donc, ce qui est très frappant chez Catherine, c'est qu'elle a un tel amour du Christ qu'elle est vraiment, si vous voulez, dans sa personne. Elle se vit comme une épouse du Christ. D'ailleurs, il y a cet épisode des noces mystiques qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu, mais enfin qui est très manifeste chez elle. Elle en a donné le récit, encore une fois, à ses confesseurs.
Et juste parenthèse, c'est quoi les noces mystiques? Parce que
c'est une union, si vous voulez. Le Christ, d'ailleurs, lui est apparu et il lui a dit « Je te choisis pour épouse ». Voilà. Donc, c'est une union très particulière, si vous voulez, spirituelle, bien entendu, que le Christ noue avec certaines âmes, et c'est le cas avec Catherine. Hein. Et pour faire simple, la Vierge Marie est en témoin de ses noces, si vous voulez. Hein. Voilà ce qui nous est rapporté, si vous voulez. Quand on connaît Catherine et le sérieux de son biographe, Raymond de Capoue, on n'est pas tellement porté à mettre en doute, si vous voulez, ses dires. Hein. Elle n'est pas du genre à en ajouter. Hein. Encore une fois, ce n'est pas exclusif. Hein. D'autres saintes ont pu connaître ce genre de noces mystiques, hein, d'épousailles mystiques. Mais là encore, qui correspond, si vous voulez, au caractère sponsiale, nuptiale, si vous voulez, de la vie chrétienne. Hein. C'est une vie d'union au Christ. Et elle le vit sous un mode, justement, des épousailles, si vous voulez, de l'épouse avec l'époux. Et comme par ailleurs, si vous voulez, l'Église elle-même est présentée justement par saint Paul comme étant l'épouse du Christ, vous voyez l'association, l'espèce de fusion qui se fait entre cette grande image des noces hein, dans la relation au Christ et au fond cette espèce d'identification de Catherine à l'Église elle-même. Et c'est pour ça que j'ai suggéré cette formule de mystique de l'Église épouse, si vous voulez, parce que les deux sont réunis et ceci dans la relation au Christ. Hein.
Alors, si vous deviez repréciser, à la lumière de son influence ou de sa vie apostolique, cette épouse qu'elle est, ou cette conscience, en fait, suraiguë qu'elle a, ou cet appel, même, vous dites, quelle forme ça prend? C'est que, justement, ce que vous avez décrit précédemment, c'est-à-dire sa présence, au cœur du Saint-Siège, c'est...
Sa présence auprès du pape, et comme je vous le disais, le souci que cette épouse église, l'église, soit, précisément, comme le disait Saint-Paul, si vous voulez, autant que possible, l'épouse, sans tache ni ride, ni rien de tel. D'où ces campagnes, si je puis dire, ces lettres répétées, et avec quel vocabulaire, s'adressant notamment aux princes de l'Église, aux cardinaux, aux évêques, en particulier, n'est-ce pas, pour qu'ils se purifient, parce que les mœurs étaient loin d'être édifiantes. Et alors là, sur ce terrain-là, Catherine de Sienne est absolument farouche. Ses fautes, et vous comprenez que cela résonne d'une certaine façon, aujourd'hui même, au vu de ce que nous avons appris, de ce que nous connaissons, hein, ces fautes commises par ceux qui ont la charge, justement, de guider, hein, les pasteurs de l'Église sont à ses yeux particulièrement graves, et elle n'a de cesse de les sommer de se convertir, hein, purement et simplement. Elle a des paroles absolument extraordinaires adressées au pape. Hein. Elle lui dit « Ces pasteurs qui pourrissent le jardin de la Sainte Église, vous devez les arracher, les mettre dehors, hein, ni plus ni moins. » Elle est farouche hein, sur ce terrain-là, Catherine. Elle lui dit également « Ne nommez pas à des postes de responsabilité ceux qui vous sont proches ou vos neveux. » Vous savez, c'est la période du népotisme, hein, comme on dit. « Mais n'hésitez pas à nommer ceux qui, justement, ne veulent pas occuper ces fonctions parce qu'ils ne pensent pas au pouvoir. Hein. Elle est farouche là-dessus. Donc ça c'est l'œuvre de purification de l'Église. C'est ce qu'elle appelle la réforme de l'Église. Hein.
Vous rapportez aussi, toujours dans cette préface que vous faites là de la publication de ces œuvres complètes, donc aux éditions Belles Lettres, cette image que l'on entend souvent hein, à propos du Christ, la tête qui serait l'époux et le corps qui serait l'épouse. De fait, ce qu'on lit, enfin quand on regarde, comme j'ai heureusement pris le temps de le faire un tout petit peu sa vie, toute sa vie mystique aussi, il y a quelque chose d'évidemment très charnel. Hein, les stigmates, bah, ce sont des vrais stigmates. Hein, donc c'est sa chair qui est marquée. Est-ce que vous pourriez dire des choses là-dessus? C'est-à-dire qu'on imagine souvent la vie mystique comme quelque chose justement de désincarné. Et puis la question interne à la question, c'est qu'est-ce que ça dit justement de ce rapport au corps ou de l'importance qu'a pour le Christ que son corps prenne forme quelque part à travers les fidèles que nous sommes.
Oui, vous avez raison de relever ce point. C'est assez frappant chez Catherine. C'est assez typique de l'époque. Hein.
Elle s'offre corps et âme aussi.
Oui, exactement. Mais le Moyen-Âge n'a pas peur de la chair, hein, si vous voulez. À condition justement qu'elle soit purifiée, si vous voulez. Hein. Mais cet aspect justement très incarné des choses, il est bien présent. Et chez Catherine, il est bien présent. C'est d'ailleurs assez stupéfiant de la part d'une sainte hein, qui... n'ayant pas peur de le dire, quand même maltraitait pas mal son corps. En tout cas, son ascèse était redoutable. Hein. Vous savez que, en fait, elle ne s'est nourrie de l'Eucharistie que de l'Eucharistie pendant quasiment une quinzaine d'années. Hein. Donc elle s'infligeait des mortifications très grandes.
Mais donc, en l'occurrence, c'est plus de l'ascèse là. C'est plus de l'ascèse quand on ne se nourrit que de l'Eucharistie.
C'est un au-delà de l'ascèse. Vous avez tout à fait raison. Mais en même temps, elle était très très sévère pour elle-même. Et en même temps, elle avait un très grand réalisme par rapport à la chair. Je me souviens d'une lettre justement où elle s'adresse à une religieuse à propos précisément de l'ascèse alimentaire qu'il convient de pratiquer. Et elle est d'un réalisme extraordinaire et elle dit si telle religieuse n'a pas la force de se priver de viande tel jour, eh bien qu'elle mange de la viande. Et si une fois ne suffit pas dans la journée, qu'elle la mange deux fois ou trois fois, si vous voulez. Ça, c'est le réalisme de Catherine. Hein. Qu'est-ce que l'on vise? Jamais l'ascèse pour l'ascèse. L'ascèse pour l'union au Christ, bien entendu, parce qu'elle peut aider. Mais il ne s'agit pas de maltraiter son corps pour le maltraiter. Hein. On a besoin de son corps, justement, parce que c'est lui qui porte l'âme. Et pour que l'âme puisse vivre de cette union à Dieu, ben, il faut que le corps soit en état de le faire. Voilà.
Et ma deuxième question, c'était aussi comment vous expliciteriez ce besoin qu'aurait le Christ quelque part de prendre chair en fait dans les fidèles que nous sommes et par exemple en l'occurrence ben, à travers cette femme et le signe des stigmates.
Vous savez, je crois que pour reprendre une formule d'un autre temps, nous sommes par rapport au Christ ou les hommes, les femmes sont par rapport au Christ des humanités de surcroît. Hein. Et donc, et ceci d'ailleurs s'enracine dans la meilleure théologie de saint Augustin, hein, lorsqu'il dit du chrétien, au fond, qu'il est un autre Christ, ni plus ni moins. Alors évidemment, pas une personne divine, mais que le Christ a pris chair, il vient prendre chair en nous. Vous voyez, et ces auteurs, qui sont tous des saints, poussent jusqu'au bout, je dirais, le réalisme de la vie chrétienne. Le réalisme de la vie chrétienne. Et l'union au Christ est tellement profonde, si vous voulez, qu'ils ont un sens très aigu, justement, de poursuivre jusque dans leur chair, si vous voulez, ce que le Christ a vécu. Et alors là encore, pensez à saint Paul. Pensez à saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, hein, au premier chapitre, lorsqu'il dit, vous savez, cette parole qui illustre si admirablement d'ailleurs la vie de Catherine, « J'achève dans ce qui manque dans ma chair à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Hein. »« J'achève dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. » Donc, notre corps, notre humanité, hein, ce que nous sommes, sont comme des lieux où le Christ peut continuer à vivre ce qu'il a vécu et où il désire, si nous le voulons bien, continuer de vivre ce qu'il a vécu, c'est-à-dire sa mort sans doute, mais surtout sa résurrection.
On fait une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver. Même chose que lors de la précédente pause pour ceux qui nous quitteraient. Deux pistes de lecture, les œuvres complètes de Catherine de Sienne parues donc aux éditions Belles Lettres. Et pardon, je n'avais pas noté pendant la pause l'autre ouvrage que vous aviez proposé.
L'ouvrage d'André Vaucher, dont je n'ai pas le titre exact en tête, qui est le plus récent sur...
qui est une biographie.
Historique de Catherine de Sienne.
On fait une deuxième pause et on vous retrouve pour quelques conseils spirituels à la lumière de la vie de cette femme et de ses écrits.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin pour rappel donc sur le thème à la découverte de Catherine de Sienne avec comme invité François Daguet, prêtre religieux dominicain, professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse et donc auteur d'une préface pour les éditions des œuvres complètes de Catherine de Sienne parues récemment aux éditions Belles Lettres. Chose promise, chose due, on s'est dit que dans cette dernière partie d'émission vous alliez nous donner quelques conseils de sagesse de vie spirituelle que l'on peut tirer de sa vie ou de ses écrits qui pourraient éclairer notre quotidien. Alors on se disait pendant la pause que, et d'ailleurs c'est vous en faites le détail dans cette préface, qu'il y a comme trois grandes étapes dans sa vie spirituelle qui correspondent à trois grandes étapes, on va dire, classiques de la vie spirituelle. Si on commence par la première, vous insistez sur... la première étape, c'est le moment où, enfin, première période de sa vie, l'âme qui apprend à se connaître et qui s'humilie. Bref, une période où on fait, on va dire, le lit d'une profonde humilité. Si on revient sur ce que vous avez dit de sa vie, est-ce que c'est la période où elle vit comme une recluse chez elle? Est-ce que c'est quelque part le sens de cette période qui peut paraître un peu folle ou un peu absurde de prime abord?
Bah, écoutez, en tout cas, c'est comme ça que, rétrospectivement, cela apparaît. Ce qu'il faut peut-être dire, si vous voulez, pour commencer, c'est que, d'abord, il y a véritablement une doctrine de la vie spirituelle chez Catherine de Sienne. C'est d'ailleurs pour cela que, je pense, elle a été proclamée docteur de l'Église. On aurait pu se satisfaire simplement du fait qu'elle soit sainte, canonisée. Non, c'est vraiment un chemin de vie spirituelle, si vous voulez, qui est proposé et que Paul VI a voulu proposer à tous les hommes. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que, pour commencer, c'est que ce chemin finalement de vie spirituelle, chez Catherine, il est proposé à tous. Il ne faudrait surtout pas, si vous voulez, que les phénomènes un peu exceptionnels qu'elle-même a connus laissent à penser que ces enseignements ne valent que pour quelques âmes d'élite choisies. Pas du tout. C'est ce qui est très frappant. On est dans une période où, en tout cas pour elle, très manifestement, les conseils finalement de vie spirituelle qu'elle donne valent absolument pour tout le monde. Et alors, ça apparaît très clairement dans ses lettres. C'est d'ailleurs très saisissant. Qu'elle s'adresse au roi de France, à une reine de Naples, à un artisan, à un tapissier ou à n'importe qui, elle tient exactement le même discours. Et donc, au fond, si vous voulez...
Alors que dit-elle sur cette première étape, justement, qui est la période où...
Eh bien, c'est l'étape de la conversion.
L'humilité doit grandir.
Eh bien, c'est se détourner du péché. C'est toujours cela, dans la première étape de la vie spirituelle, ce qu'on appellera plus tard, si vous voulez, la voie purgative, si vous voulez, avant la voie illuminative et la voie unitive, ou l'étape. C'est l'étape où on se décide sérieusement, si vous voulez, à vivre dans l'union au Christ. Et c'est pour cela qu'évidemment, symboliquement, elle applique des renoncements, des privations, parce que, on se détourne de certains comportements. Il faut dire les choses très simplement, il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. Et cette première étape, elle est toujours là. Évidemment, cette première étape, c'est pas seulement une chronologie, on la vit aussi tout au long de sa vie. C'est pas parce qu'on peut progresser dans la vie spirituelle qu'on n'a pas besoin, finalement, un peu tout le temps, de se détourner des inclinations mauvaises. Donc, cette première étape de la vie spirituelle, c'est ça. Et au fond, c'est vouloir s'enraciner dans la vie avec le Christ. Voilà.
Alors, si on prend sa vie, justement, cette période où, en fait, on a l'impression que très tôt, elle vit une très grande ascèse, est-ce à comprendre, en fait, que cette femme a compris, vous dites, cette femme supérieurement intelligente et puis éclairée de manière exceptionnelle, peut-être par la grâce, choisie dans sa propre maison comme une vie de recluse qui devait paraître absurde, y compris à ses parents. Est-ce là, en fait, le sens que l'on peut voir à cette ascète à domicile, on va dire?
A posteriori, compte tenu de ce que l'on sait, de ce qui va se passer après, précisément, et des autres étapes de sa vie, qu'on a déjà d'ailleurs un peu évoquées, le fait qu'elle va sortir, justement, de cette vie recluse, cette première période apparaît comme le temps des grandes préparations, si vous voulez. Hein. Mais évidemment, sur le coup, elle ne le sait pas. Elle veut tout simplement purifier sa vie le plus possible pour vivre en union, l'union la plus étroite avec le Christ. Elle ne sait pas où ça va la conduire. Et c'est ça la conversion, si vous voulez. Hein. C'est dire oui au Christ sans savoir où il nous emmène. Et après, on le laisse faire. Et c'est là qu'il y a des surprises.
Alors, quels sont ses conseils? J'imagine que vous les avez peut-être pas forcément tous en tête, mais elle n'invite pas chacun à vivre comme un reclus dans sa propre vie. Qu'est-ce que vous avez en tête qui pourrait illustrer cette première étape?
C'est surtout se détourner des comportements mauvais. Fuir, c'est quelque chose d'ailleurs qui revient souvent dans ses lettres. Fuir à tout prix la mondanité, par exemple. S'attacher aux choses vaines.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par la mondanité?
Toutes les choses superficielles qui accaparent tellement l'esprit des hommes à toute époque, et je pense que notre époque n'est pas en reste de ce point de vue-là. Ne pas s'attacher aux biens matériels plus que de raison. Elle n'a aucun mépris pour les biens matériels, simplement son discours récurrent, quels que soient ses interlocuteurs, c'est de dire cherchez d'abord à en faire profiter le plus grand nombre possible, et puis ne vous attachez pas à ces biens comme si votre vie était liée à eux, vous en êtes simplement les dépositaires. Elle a une lettre au roi de France qui est absolument saisissante. Elle lui dit, vous devez vous occuper des pauvres, et le pouvoir qui vous a été donné, c'est pour vous occuper d'eux, si vous voulez. Ne vous attachez pas simplement au pouvoir pour le pouvoir. Voilà le genre de purification, si vous voulez, qui s'adressent à tout le monde et qui, me semble-t-il, sont vraiment de toutes les époques.
Alors, deuxième étape, si j'ai bien compris, vous me corrigerez, vous compléterez, vous la nommez comme telle, l'âme est alors en quelque sorte contrainte d'aimer Dieu, d'aimer ce que Dieu aime. Ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, on a fait une telle expérience de sa propre misère, on a été quelque part profondément humilié, mais au bon sens du terme, on s'est senti tellement démuni et tellement pauvre, que comme un deuxième mouvement, eh bien, on finit par s'attacher en fait à la volonté ou au désir de quelqu'un d'autre. Racontez-nous peut-être cette deuxième étape en commençant par l'illustrer par sa vie.
Autant qu'on puisse le faire. Comme vous venez de le dire, hein, au fond, l'âme progressivement découvre, si vous voulez, que... Et vous voyez bien comment l'épouse n'a de cesse de vivre ce que vit l'époux, finalement. Elle va chercher à accomplir, finalement, le plus possible la volonté divine, au prix, si vous voulez, du sacrifice de sa volonté personnelle. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se méprendre, si vous voulez. Il n'y a pas du tout chez Catherine de Sienne, hein, et dans sa doctrine spirituelle, une mystique de l'anéantissement. Mais c'est une...
Qui n'est pas chrétienne.
Mais c'est une mystique de l'entière remise de soi-même entre les mains de Dieu. Et donc, elle n'a de cesse de chercher à faire ce que Dieu lui suggère. Et parce qu'elle a une confiance très profonde, si vous voulez, dans l'œuvre tout simplement de l'Esprit-Saint qui nous montre. Hein, c'est ce qu'on appelle, vous savez, l'esprit de conseil en particulier. Et c'est là que l'âme, lorsqu'elle a découvert cela, cherche à y être attentive et finalement... Elle n'a de cesse de vivre cela. Et donc, elle n'a plus envie, si vous voulez, de faire ce que ses inclinations peut-être naturelles, personnelles, spontanées, la conduiraient à faire, mais elle veut faire ce que Dieu veut, désire l'avoir faire, si vous voulez.
Est-ce qu'un exemple vous revient, un moment de sa vie
Et justement, dans cette période, si vous voulez, quand le Christ lui fait apparaître, parce que vous savez qu'ils sont en dialogue constant, hein, ou quand Dieu, le Père, lui fait apparaître, qu'il se désespère justement de l'état de division de ses enfants, hein, des chrétiens qui s'entre-déchirent par des guerres, etc. Eh bien, c'est justement là, si vous voulez, que Catherine comprend, et qu'elle est invitée à le faire, qu'il faut qu'elle aille à la rencontre de ces personnes et de leur dire, mais maintenant, convertissez-vous et cessez de vous faire la guerre. Vous n'êtes pas fait pour cela. Vous êtes fait pour vivre en paix et dans l'amour de Dieu. Et c'est cela que Dieu attend de vous. Et donc, purifiez-vous de vos péchés et retrouvez la voie que le Seigneur veut pour vous. Vous savez... Quand vous voyez aujourd'hui, c'est en réfléchissant à cela ces jours-ci, j'y pensais, les déchaînements de violence que l'on voit apparaître dans notre société aujourd'hui.
En France, oui.
En France en particulier, n'est-ce pas? Mais ailleurs aussi, car la violence monte partout.
Le pape François, d'ailleurs, parle de Troisième Guerre mondiale par morceaux. Il n'est pas toujours repris par les médias sur ce sujet. Hein.
Exactement.
Mais lui, par contre, il le dit et il le redit. Hein.
Ces manifestations aussi, il en a un sens très aigu, le pape François. Ces manifestations de déchaînement, de violence... effectivement, qui ne prennent pas pour l'instant, grâce à Dieu peut-être, la forme d'un conflit armé, mais qui sont non moins réels, enfin, jusque dans notre pays. Eh bien, vous savez, ce discours de Catherine sollicitant les consciences, secouant les consciences, et leur disant qu'elles ne sont pas faites pour la guerre, mais pour la paix, et que cette paix, elles ne pourront la vivre que si elles acceptent de se mettre dans la lumière de Dieu, j'ai l'impression que le discours de Catherine est bien de notre temps.
Le pape François qui dit aussi régulièrement, il y a des nouveaux Nérons qui se lèvent un peu partout dans le monde, faisant évidemment écho à non seulement au népotisme, enfin bref, à certains tyrans, mais aussi à la persécution des chrétiens, enfin et pas que des catholiques. Je voulais vous demander d'illustrer par un autre, peut-être un autre trait de sa vie, c'est que si j'ai bien compris, en fait, son tempérament quand même ne la portait pas. Vous me direz, je sais pas qui peut être porté à cela, à aller toquer à la porte des souverains pontifes ou des villes pour les engager à faire la paix. Parce que ça, vous en avez parlé à propos de ses relations avec les papes, mais je crois qu'elle allait aussi voir en fait les édiles locaux et essayer de les convaincre envers et contre tout de faire œuvre de paix et de se réconcilier avec l'Église.
Ah, c'est ce que je vous disais. Oui, absolument. Faire la paix d'abord dans la cité, c'est-à-dire cesser ces guerres intestines, ces guerres civiles, hein, qui ont fait des ravages, hein, dans des populations déjà très très éprouvées par les pestes, et en plus effectivement faire la paix avec le pape, parce qu'on ne peut pas vivre, il faut le rappeler aujourd'hui encore, on ne peut pas vivre en paix si on est en rupture avec tout simplement l'Église, et c'est ce qu'elle nous enseigne à travers la figure du souverain pontife. Donc effectivement elle allait voir les édiles locaux,
et ça lui coûtait, on imagine que là en l'occurrence elle faisait plus que sa volonté,
et elle avait parfaitement... C'est bien ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est qu'elle sent bien que ce n'est pas sa volonté propre, si vous voulez, qu'elle accomplit, mais elle se sent poussée, justement, à accomplir cela, à aller prêcher la paix, en sachant très bien, d'ailleurs, que, vous savez, elle risquait sa vie à longueur de journée, parce qu'elle pouvait être trucidée par le premier homme venu, justement, dans ce climat de violence intestine qui ravageait les cités, et d'abord la cité de Sienne. Eh bien, envers et contre tout, elle a traversé cela, et elle allait les voir, et elle les sommait de se mettre en paix avec Dieu et les uns avec les autres.
Donc si on devait le résumer rapidement, cette deuxième étape, ce deuxième grand conseil de Catherine de Sienne, ou de sa voie spirituelle, c'est donc apprendre à rentrer dans une autre volonté que la nôtre.
Oui, et accepter de se laisser éclairer et guider par Dieu. Et en particulier, on précisera, par son esprit. Voilà.
Alors, dernière étape, je vais vous laisser la détailler, parce que j'avoue que je l'ai moins compris. Comment vous présenteriez-vous cette dernière grande étape? Je cite le début du passage dans votre préface. Ces fleurs et ces fruits jaillissent du tronc de l'arbre par le rejeton de la vraie discrétion. Alors, expliquez-nous.
Non, ça c'est le...
J'ai peut-être mal noté, oui.
Non, pas du tout. C'est simplement le vocabulaire très imagé qu'elle a quand elle compare la vie de l'âme à la vie d'un arbre. Hein, et elle dit, la vie de l'âme, c'est l'arbre de la charité. Hein. Pour Catherine, c'est très simple. Si vous voulez, qu'est-ce que nous devons chercher? C'est à faire croître en nous la vie de la charité. La charité comprise comme l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, hein, par l'Esprit Saint. Et cette vie, justement, si nous la laissons grandir, vous voyez, il y a une croissance, eh bien, elle va produire des fruits. Et des fleurs. Alors évidemment, tout ça est imagé, hein, c'est-à-dire les bonnes œuvres et les actions vertueuses et les actions qu'on va adresser, les actions de grâce qu'on va adresser à Dieu. Au fond, voilà, il ne faut pas, là encore, compliquer les choses. C'est un langage imagé pour exprimer la fructification, si vous voulez, de la vie de la grâce dans l'âme. C'est ça qu'elle veut nous dire. Hein. Alors, ça ne correspond pas seulement, si vous voulez, là pour le coup, à la dernière étape, hein, mais à toute la croissance de la vie. Hein.
C'est ce que j'allais vous dire, en fait. On a l'impression que, est-ce que la distinction, c'est à la fois toute la vie chrétienne, en fait, ces trois étapes, on va dire le quotidien peut-être même du chrétien, et en même temps, c'est bien trois grandes étapes dans la vie spirituelle. Alors comment comprendre un peu ce deux en un,
Si vous voulez, vous avez raison de le souligner, ça caractérise, enfin ça vaut, si vous voulez, pour toute la vie chrétienne, et en même temps, au fond, ces étapes qu'il ne faut pas regarder d'abord exclusivement comme des étapes chronologiques, au fond, nous montrent, si vous voulez, différents degrés que cette vie de la charité peut prendre dans une âme. Et ceci, il faut toujours le rappeler, au gré de la volonté divine. Dieu ne conduit pas les âmes de la même façon, ne demande pas à chacune de vivre, à toutes les âmes de vivre la même chose. Hein. Au contraire, d'ailleurs, c'est unique à chaque fois. Simplement, il y a ces étapes, si vous voulez, ces degrés que l'on discerne de purification, vraiment, d'illumination par Dieu. Et puis, la dernière étape, si vous voulez, qui est plus une vie véritablement unitive, où là, et alors ça correspond à la fin de la vie de Catherine, hein, où vraiment l'union au Christ, et en particulier au Christ dans sa passion, devient très très manifeste. Là, pour le coup, si j'ose dire, elle va vivre, ça correspond à sa période romaine, hein, grosso modo, les 4 dernières années de sa vie. Elle va vivre
donc,
au fond.
Je précise pour ceux qui n'étaient pas là avant, c'est le moment donc elle est auprès d'Urbain VI,
voilà,
pape.
À partir de 1376, elle va mourir en 1380. Et
où elle accompagne le souverain pontife en fait dans son pontificat. C'est...
Voilà. Et alors elle vit cela, si vous voulez, comme vraiment dans des souffrances inouïes. C'est-à-dire que, si vous voulez, elle va prendre sur elle, d'ailleurs, selon une image et un épisode assez stupéfiant de la fin de sa vie, les souffrances de l'Église, si vous voulez. Et donc là, elle finit par s'associer au Christ jusque dans sa passion pour le salut de l'Église, hein, et la sainteté de l'Église.
Eh ben, merci beaucoup François Daguet d'être venu au micro de Vivante Église ce matin pour nous introduire à la vie de cette grande sainte. Pour finir, donc quelques pistes de lecture, on les a déjà données avant chaque partie d'émission, en pensant à ceux qui nous quittent en cours de route, donc pardon pour ceux qui ont suivi toute l'émission, on en a rajouté une. Les œuvres complètes de Catherine de Sienne, parues aux éditions Belles Lettres.
Si vous le permettez, j'ajoute que dans ces œuvres complètes sont jointes également la vie de Catherine de Sienne par son biographe, le bienheureux Raymond de Capoue.
Donc, c'est l'occasion aussi de lire une biographie, évidemment.
Voilà.
André Vaucher, donc Catherine de Sienne, Vie et Passion, paru aux éditions du Cerf, qui est une autre biographie, hein, c'est ça. On pourrait aussi conseiller Prier 15 jours avec Catherine de Sienne, cette petite collection où voilà, on peut prier entre autres avec Catherine de Sienne, qui propose donc d'être accompagnée dans sa prière quotidienne, paru aux éditions Nouvelle Cité. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.